province de l'Équateur, le gouverneur Tony Bolamba a été démis de ses fonctions la semaine dernière à la suite d'une motion de censure votée à l'unanimité par les députés provinciaux. Près d'une semaine après la destitution du gouverneur, une confusion s'est installée quant à la personne qui doit assurer l'intérim pour gérer la province. Quelle lecture faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois M. Benoît Youlama. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Alain.
Vous êtes ancien conseiller au ministère de l'Intérieur, cadre de la majorité présidentielle et du PPRD. Honorable Léopold Badjoko, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député provincial élu de Bassankoussou dans la province de l'Équateur. Maître Soudi Kimputu Alimasi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en décentralisation. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à tous dans votre émission. Notez toutefois que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du gouverneur Tony Bolamba sont restés vains.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La confusion règne à la tête de la province de l'Équateur après la déchéance de l'ensemble du gouvernement provincial par motion de censure. Alors qu'on attend la désignation d'un gouverneur intérim par le ministère de l'Intérieur, les sympathisants de la vice-gouverneur ont investi hier mercredi le gouvernorat de province et ont installé Jeannine Intombi dans son bureau. Dominique Olombi nous raconte.
C'est vers 8h30 que Madame Jeannine Intombi est arrivée au bâtiment administratif accompagnée de ses sympathisants. Ceux-ci, sans ménagement, rapportent les policiers des gardes et l'intendant du gouvernorat, ont forcé les portes du cabinet et ont installé la vice-gouverneure comme l'autorité qui doit assurer les affaires courantes avant que la CENI soit saisie pour organiser l'élection du nouveau gouverneur. Après ces forcings, le procureur général près la cour d'appel de Mbandaka est descendu sur le lieu, puis la police pour faire le constat. Après négociation avec la police, Madame Intombi a dû quitter les bureaux. Tous les membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de l'Équateur sont depuis le week-end dernier à Kinshasa, où ils ont rencontré lundi les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Emmanuel Chadari, justement pour cette question. Le président de l'Assemblée provinciale, Ofanje Isangi, a contacté, dit être ignorant d'un quelconque message du ministère de l'Intérieur qui installe la vice-gouverneure comme intérimaire à la tête de l'Équateur. En principe, après une motion de censure contre le gouvernement provincial, l'intérim, dit le président de l'Assemblée provinciale, revient au vice-gouverneur pour une durée de 30 jours avant l'élection du prochain gouverneur. Mais la vice-gouverneure, réhabilitée par la Cour constitutionnelle, après avoir été déchue de ses fonctions par motion de défiance, n'a jamais été notifiée par le ministère des tutelles pour reprendre son poste. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Merci Dominique Wolombi. Notez que les sympathisants de Madame la vice-gouverneure rejettent cette version des faits. Honorable Léopold Badjoko, vous êtes député provincial élu de Bassankoussou dans la province de l'Équateur. Avant de parler de la question de l'intérim, commençons par la déchéance du gouverneur Tony Bolamba qui est intervenu la semaine dernière. Qu'est-ce que l'Assemblée provinciale lui reproche?
Bon, merci pour l'occasion que vous m'offrez. En ce qui concerne la déchéance du gouverneur Bolamba, c'était déjà prévisible. C'était prévisible d'autant plus que sa façon de gérer la mauvaise gouvernance était vraiment manifeste et que cela a été décrié et par la population, la société civile et un groupe de députés rationnels. Et parce que quand je dis bien un groupe de députés rationnels qui était minoritaire, puisque un point donné, le bureau avec une certaine majorité était en intelligence avec le gouverneur. Et chaque fois qu'on présentait des interpellations, des motions, tout ça, tout s'était cassé par le bureau, d'autant plus qu'ils étaient les grands protecteurs du gouverneur. Mais à un moment donné, on a poussé, le bureau lui-même, il a vu que l'étau commençait à se serrer autour du gouverneur Bolamba et autour des membres du bureau. C'est ainsi que par la force des choses. Et ils ont agi à contre-cœur. Ainsi que ils ont accepté une motion de censure. Mais à cela, il faut ajouter aussi le réquisitoire du PGR, c'est-à-dire le procureur général près la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que le jour J, on a fait ce qu'on devait faire quand on juge ses coutumes parlementaires et Moulamba a été déçu par l'Assemblée provinciale de l'Équateur.
Alors, Léopold Badiou, Léopold Badioko, je vous redonne la parole. Vous avez, vous parlez d'un groupe de députés rationnels qui résistaient aux motions, ainsi de suite, mais le vote de la déchéance l'a été à l'unanimité. Y a-t-il eu notamment des pressions?
Oui, ça c'est le vote, mais tout au début, parce que quand je parle de ça, je parle de Genèse. Genèse, ça veut tout au début avec l'évolution, ce groupe de députés. Donc, d'être majoritaire, ils n'étaient pas d'accord avec la position d'un petit groupe de députés rationnels et la société civile. Mais avec le temps, les choses évoluaient autrement, ils ont vu que ça ne pouvait pas aller, et il ne faut pas aller contre le courant de l'histoire, sinon ils seront tous emportés par ce courant. Ils sont venus donc rejoindre la minorité. Maintenant, la minorité a raison. Parce que nous avons les principes démocratiques, la majorité a toujours raison, mais cette fois-ci, la minorité a eu raison. Et comme il était devant cet arrondi, la majorité nous a rejoint pour faire partir Moulamba. C'était ça l'explication.
Alors, voilà. Léopold Badioko, le vote s'est déroulé en l'absence du gouverneur Moulamba. Ne va-t-on pas vous reprocher le fait que la procédure n'a pas été respectée, que l'intéressé n'a pas présenté ses moyens de défense?
Bien sûr, c'était comme ça, parce que mais, le lundi, on devait voter cette motion de censure le lundi. Nous avons eu un message officiel en provenance du cabinet de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Pour nous, il dit maintenant, on ne veut pas aller de procès en procès, présenter cette motion. Et puis, faire partie de l'ambassade sans qu'il soit présent, ce n'est pas du tout bien parce que le droit de défense est vraiment garanti. Il faut l'attendre, nous allons faire tout pour qu'il puisse regagner Mandaka afin qu'il se justifie. Et le jour J, le vendredi, parce qu'il devrait venir rentrer à Mandaka le mercredi. Parce que ce jour-là, le mercredi, il y avait vol. Nous l'avons attendu le mercredi, on l'a pas vu. On attendait peut-être qu'il va venir avec un avion spécial. Le jeudi, le jour J, il ne s'est pas pointé. C'est ainsi que nous sommes passés au vote de la motion. C'était comme ça. Il n'était pas là présent. Il n'était pas présent, mais il se bat sa propre volonté parce qu'on lui a donné tout le temps. On lui a donné, il avait toute la latitude de nous rejoindre pour qu'il puisse présenter ses moyens de défense. Mais il ne l'a pas fait. C'est ainsi qu'il est parti.
Alors, revenons à la question de l'intérim. Selon vous, normalement, qui doit assurer l'intérim de la province dans ce cas?
Bon, ici, je ne peux pas dire que selon moi, non, selon les textes, je ne me suis pas dit selon moi, je dis selon les textes. Qui disent les textes? Les textes, il y a un gouverneur, il y a un vice-gouverneur, ils sont tous sur la même liste. Et lorsque le gouverneur est dans le terrain, lorsque le gouverneur a des problèmes, lorsque il est, bon, on le fait partir, il y a un empêchement définitif, c'est toujours le vice-gouverneur qui assume les terrains. Ça lui revient des droits, ça lui revient des droits, mais ici chez nous, à l'Équateur, cette femme, la vice-gouverneure, elle est plutôt victime de la compression de la nature humaine. Et surtout avec les intérêts personnels qui nous divisent ici. Et c'est le bureau qui est à la base de tout ça. Parce que le bureau, nous sommes les députés. Et les députés, parce que nous sommes les députés, nous devons être donc mieux placés pour interpréter les lois. Nous sommes mieux placés pour défendre la légalité. Mais aujourd'hui, nous avons vu tout le contraire. Il y a une cacophonie indescriptible parce que et le président, les membres du bureau et certains députés, surtout à l'époque de la majorité, et ils ne veulent pas, donc ils investissent. Vous voyez, ils voyagent à qui fait ça, on leur a demandé de vivre pour en bas par le procureur général, au contraire, et quand ils partent là-bas, c'est pour négocier l'intérim. Mais on ne veut pas négocier l'intérim. Hein? Ça, c'est défier la cour constitutionnelle. À moins qu'on soit en conflit avec son cerveau, il est un homme normal. Et les textes sont devant nous, nous avons les lois de cette République, nous devons nous incliner, et surtout la Cour, que ce soit le président, que ce soit nous-mêmes les députés provinciaux. Si aujourd'hui nous sommes au pouvoir, c'est à cause de cette même Cour Et nous, on ne peut pas donc l'adifier.
Merci.
Nous sommes dans la légalité, nous sommes dans la légalité et nous ne sommes pas dans la légitimité grâce à la Cour.
Merci.
Mais aujourd'hui,
merci.
Un député ou bien un membre de l'exécutif.
Merci Léopold Badjoukou. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Benoît Youlama, vous êtes ancien conseiller au ministère de l'Intérieur, vous êtes membre du PPRD, cadre de la majorité présidentielle. Comment vous, vous analysez cette situation?
Merci une fois encore pour l'invitation de Salin. Nous estimons que la procédure qui a été entamée par les députés provinciaux, même au regard des arguments présentés par mon co-débatteur, vous avez entendu,
Léopold
Badjoukou, lui-même évoque le fait même qu'il y ait absence de l'intéressé n'a jamais été entendu. Et au regard de la loi, je crois qu'il y a quand même un tort au bon fonctionnement et de l'institution parlement provincial qui a pris la décision de faire partie de quelqu'un qui n'a jamais été entendu. Et cette absence risque de créer un précédent sur le plan de droit. Et donc, entendons voir si l'intéressé arrive à saisir la Cour constitutionnelle sur la forme, ça peut poser un très sérieux problème de procédure. Et en ce qui concerne le départ, moi-même je ne suis pas étonné, puisqu'il y avait de très mauvaises relations entre les députés provinciaux et l'ancien gouverneur ou le gouverneur Vincé. Et les relations n'étaient pas bonnes, et il y avait beaucoup d'accusations, mais que je ne pense pas être nécessairement sur le fondamentaux en rapport avec la gestion de la province. C'est plus de problèmes un peu individuels entre les députés provinciaux et la personne du gouverneur qui est déjà pratiquement renvoyée par l'Assemblée provinciale. Donc c'est au regard de cela que nous estimons...
Benoît Youlama, à ce niveau-là, en parlant des griefs, les députés provinciaux reprochent notamment la mauvaise gouvernance marquée par l'opacité dans la gestion des deniers publics, par le détournement des fonds de rétrocession destinés aux entités décentralisées. Vous mettez tout ça dans le compte des règlements de compte personnels.
Bon, je ne suis pas entré dans le fond, puisque même au niveau de la Cour constitutionnelle n'examinait pas le fond de la question. C'est plus au niveau de la procédure. Si la procédure a été respectée conformément à la loi, c'est à ce niveau-là que la Cour se prononce. Si la procédure a été respectée, la Cour va considérer qu'elle a été respectée. Mais s'il y a déjà un torse, comme je l'ai dit, un problème au niveau de la procédure, certainement ça peut créer un précédent sur le plan de droit. Et donc sur les fondamentaux, si le gouverneur aurait détourné, s'il aurait détourné les fonds au niveau de sa province, je crois que nous, majorité, nous ne pouvons jamais souhaiter qu'il y ait des détournements. Nous devons absolument à ce niveau-là souhaiter les députés provinciaux à la seule condition que la procédure soit respectée. C'est cela qui peut et nous permettre d'éviter d'autres quoi que qu'on a connu par le passé, où à chaque occasion qu'il y a l'intervention d'une juridiction, on estime que la majorité aurait influé en faveur ou en défaveur. Donc nous sommes dans l'étape d'observer d'abord ce qui va se passer, si l'intéressé va recourir au moyen de la loi. En tout cas, c'est à partir de là que nous allons prendre notre position.
Alors, on sait que le gouverneur Tony Bolamba a été retenu à Kinshasa, mais pourquoi, par exemple, le ministère de l'Intérieur ne pouvait-il pas faciliter la tâche en le laissant rentrer en bonne et due forme pour qu'il présente ses moyens de défense? C'est toujours cette même mise de Kinshasa sur les provinces.
Bon, je ne crois pas qu'il y a la même mise. Souvent, le gouverneur, même quand il vient à Kinshasa, je crois que si vous vérifiez les statistiques au niveau des aéroports, que nous avons Ndolo et que l'aéroport de Djili, je crois que c'est presque chaque semaine que le gouverneur sort à Kinshasa. Vous le remarquerez. Et nous, même à notre époque, à un moment, nous avions même souhaité prendre des mesures pour que le gouverneur ne se déplace plus, puisqu'il y avait plus des voyages touristiques que des voyages du travail. Au lieu de rester dans la province pour voir la situation ensemble avec d'autres responsables, certains gouverneurs préfèrent voyager régulièrement
pour des raisons personnelles.
Pour des raisons personnelles qui n'ont. Mais là, c'est le trésor public et qui est épuisé à tout moment, l'argent sort pour ce déplacement-là. Alors maintenant, quand tu as considéré que le ministère de l'Intérieur a empêché l'intéressé à rentrer, sincèrement, j'ai posé autant de questions avant même d'être sur le studio de Radio Okapi, et il n'a jamais été interdit. Si son séjour n'est pas encore terminé, le ministère de l'Intérieur ne peut pas le pousser au parti. Et donc, c'est encore conforme à son ordre de démission. Donc, on pouvait le laisser faire son travail par rapport à son programme qui avait été établi à partir de Madaka.
Alors, la motion de censure qui a mené à sa déchéance a été votée à l'unanimité. L'honorable Léopold Badioko l'a dit. Au commencement, il y avait des députés réfractaires qui continuaient à soutenir le gouverneur Bolamba. Visiblement, cette fois-ci, la majorité a décidé de céder, de laisser tomber son homme.
Oui, et je l'ai déjà dit tantôt qu'il n'y avait pas de bon rapport entre le gouverneur et les députés provinciaux depuis très longtemps, depuis notre époque, où le gouverneur était souvent accusé de manquer du respect envers certains députés provinciaux. Le rapport avec le service de sécurité n'était pas aussi de bon rapport.
Mais à l'époque, toujours protégé par la majorité, s'il pouvait tomber, ça l'aurait dû l'être depuis longtemps.
Je crois que c'était simplement un problème de procédure, puisque la plupart des députés provinciaux n'ont pas une grande capacité en ce qui concerne la connaissance des lois. Et si vous avez vu que plusieurs ont voté des motions et que les motions sont arrivées presque à être déboutées par la Cour constitutionnelle, puisque simplement ils n'ont pas la maîtrise de la loi, c'est cela qui a occasionné. Mais la majorité n'a aucun moment protégé tel ou tel gouverneur. À chaque occasion, les gouverneurs sont en train de partir. Au contraire, ceux qui tombent, ce sont des gouverneurs de la majorité présidentielle.
Alors, quel est votre avis sur la question de l'intérim? L'honorable Badioko a dit, je reprends ces mots, que Madame la vice-gouverneure est simplement victime de l'incompréhension de la nature humaine.
Bon, je ne sais pas si c'est comme ça que le député Badioko comprend la gestion des affaires de l'État. Au niveau de l'État, on ne parle pas des sentiments particuliers. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une procédure. Et la procédure prévoit que l'intérim soit assumé par madame, mais madame n'a pas le droit d'aller investir.
Elle
ne peut pas le faire, entrer dans les bureaux, s'introduire avec ses membres, cela n'est pas conforme à la loi. S'il y avait refus de faire donc la remise et reprise, à ce moment-là, on aurait fait un PV de carence, qui serait en tout cas supervisé par un intermédiaire de la justice, c'est le cas d'un inspecteur judiciaire. Merci. Ou carrément un magistrat qui descend pour constater, et puis à ce moment-là on ouvre les bureaux.
Merci Benoît Youlama. Maître Soudi Kimputwa Dimasi, expert en décentralisation. Maître Soudi, comment vous analysez également cette question? Commençons par la déchéance du gouverneur Tony Bolamba.
Merci beaucoup Alain. Je voudrais saluer d'abord tous les auditeurs de la radio Capi et tous les co-débatteurs de l'émission de ce soir. J'aimerais que nous puissions attentivement nous suivre, c'est ce que nous sommes en train de dire, pour édifier et notre population et tous les acteurs de mise en œuvre des questions de décentralisation dans notre pays. D'abord, je voudrais commencer par la question de la motion de défiance. Il y a jusque-là une grande difficulté de compréhension des procédures contenues dans nos textes par différentes assemblées provinciales et la plupart des autorités tant provinciales et des fois même nationales sur un certain nombre de questions. Ici, la motion, si j'ai bien entendu, elle est une motion de censure. S'il s'agit d'une motion de censure, c'est que ça va concerner l'ensemble du gouvernement. Et donc, dans une motion de censure, l'absence du gouverneur de province ne pouvait pas empêcher à ce que un membre du gouvernement, le plus pressé, puisse venir se présenter à l'Assemblée provinciale pour fournir les arguments de défense de tous les gouvernements qui étaient est soumis à la question de la motion des censures. Alors, ici, il y a un grand problème qui se pose, c'est celui de l'application d'un principe général des droits et qui risque de poser le problème au niveau de la Cour constitutionnelle. Il s'agit ici des droits de la défense. que le gouvernement Bolamba devait présenter au sein de cette assemblée provinciale. Et cette question n'est pas à confondre avec la question de l'outrage prévu par l'article 69 de la loi sur la libre administration des provinces. Il y a outrage ici s'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées au gouverneur de province par l'assemblée provinciale et que le gouverneur de province n'a pas eu l'occasion de répondre ou n'a pas volontairement présenté ses arguments de défense auprès de l'assemblée provinciale. L'assemblée provinciale peut constater qu'il y a outrage envers elle, et l'article 68 règle cette question, répond en cas d'outrage, c'est-à-dire que l'Assemblée provinciale peut déférer devant la Cour compétente le gouverneur de province pour cet outrage. Alors, ici, les gouverneurs qui n'étaient pas sur place, et là nous l'avons toujours dit, le gouverneur de province qui a double casquette, pouvait être retenu. Par exemple, à la capitale, s'il demande des autorités centrales, auprès desquelles il répond de toutes les matières concernant les compétences exclusives des provinces. Et il dit ici, je m'inscris en faux sur les déplacements des gouverneurs de province à ce qui concerne leurs matières propres, parce que ce contrôle ne peut être exercé que par les assemblées provinciales. Le gouvernement central en est compétent seulement si le gouverneur de province veut aller à l'extérieur du pays. Donc, si une province estime que son gouverneur peut passer tout son temps à Kinshasa et qu'il y a une assemblée provinciale faible qui ne sait pas le contrôler, en ce qui concerne les compétences exclusives des provinces, j'estime que ça ne peut poser aucun problème au regard de nos textes. Parce que là, nous sommes dans un régionalisme politique où il y a beaucoup d'entorses. D'ailleurs, je viens de révéler la question de la double casquette du gouverneur de province. Je voudrais en venir maintenant à la question de la difficulté de la personne qui doit assumer l'intérim.
Maître Soudi, s'il vous plaît, avant d'aborder cet aspect, et donc si je comprends votre intervention, la difficulté à résider au niveau de l'Assemblée provinciale, du gouvernement provincial, c'était simplement la méconnaissance des lois.
Tout à fait, parce que le gouverneur de province qui répond du pouvoir central en ce qui concerne les matières résultant des compétences exclusives du pouvoir central, il peut être appelé à Kinshasa à temps et à contre-temps pour répondre de cette question-là. Mais Kinshasa ne peut pas l'interpeller concernant les matières exclusives des provinces parce que c'est l'Assemblée provinciale qui en est compétent pour lui empêcher de faire ce mouvement, pour voir s'il a fait de la gabegie dans la caisse de la province, etc., etc. Donc ici, l'Assemblée provinciale devait d'abord chercher à savoir pourquoi ce gouverneur était à Kinshasa. Est-ce que c'était pour des raisons d'État ou pour des raisons privées avant de prendre cette décision?
Alors, passons maintenant à la question de l'intérim.
Alors, concernant la question de l'intérim, je reviens encore sur la nuance qu'il faudra faire en ce qui concerne la motion de censure et la motion de défiance. Si je vous ai très bien suivi, vous venez de parler de la motion de censure. La motion de censure concerne l'ensemble du gouvernement, les gouverneurs de province, les vice-gouverneurs et tous les ministres provinciaux. S'il s'agissait de la motion de défiance qui ne concernait que le gouverneur de province, à ce moment-là, ça épargnerait les autres membres du gouvernement. Alors, comme il s'agit de la motion de censure qui emporte l'ensemble des membres du gouvernement, il y a une notion constitutionnelle et légale qui vient intervenir en disant que l'ensemble du gouvernement est réputé démissionnaire. Et là, on doit maintenant faire recours aux principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le droit administratif. Lorsque, en droit administratif, on parle de réputé démissionnaire, comme il s'agit de l'ensemble du gouvernement, c'est le même gouverneur qui expédie les affaires courantes. En attendant la remise, reprise avec celui qui va le remplacer. Sauf si il a été accusé de faits graves, de malversations, ainsi de suite, l'autorité administrative compétente pourra prendre des mesures conservatoires. Et ces mesures conservatoires, alors, peuvent amener à ce que l'autorité administrativement compétente puisse placer à cette fonction quelqu'un pour expédier ses affaires courantes.
Merci, Maître
Soudi. Et non l'intérim.
Merci, Maître Soudi. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Honorable Léopold Badjoko, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
Moi, c'est Ferdinand Kindamina. Je vous appelle à partir de la province du Nord Kivu, à Goma. Je crois qu'en cas de la déchéance ou de mission, le vice-gouverneur peut assumer l'intérim en attendant que la CENI organise encore une autre élection dans cette province. Cette situation est due à la mégestion orchestrée par la majorité présidentielle qui foule au pied même les arrêts de la Cour constitutionnelle. Aussi, les députés provinciaux ont peur suite au renforcement des pouvoirs du président de la République qui peut désormais dissoudre toute une assemblée provinciale en cas de persistance d'une crise interinstitutionnelle.
Veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité de cet élément sonore. Honorable Léopold Badioko, si vous avez compris ces propos, qu'est-ce que vous répondez à Ferdinand qui est Kendamina?
Bon, ici, puisque j'ai suivi tout à l'heure un intervenant qui parlait, qui faisait la différence entre la motion de censure et la motion de défiance. Motion de défiance, ça se concerne le gouverneur seul. Et lorsqu'il part sur le vice, il doit assumer donc l'intérim. Et maintenant, quand je reviens à la motion de censure, c'est tout le gouvernement qui part. Et je crois que c'est à l'ordre de préférence. À l'ordre de préférence, on prend celui-là et il assume l'intérim. Et ici, dans ce cas, c'est le vice, donc le vice-gouverneur. Parce que les ministres, vous prenez un ministre d'un côté et le vice-gouverneur de l'autre côté, je crois que c'est le vice-gouverneur qui a la préférence. Parce que c'est tout le monde qui parle. Et maintenant, l'autre qui nous dit, et voilà, c'est toujours le même gouverneur qui doit assumer. Mais le gouverneur aujourd'hui, il est dans des difficultés d'assumer, donc c'est intérêt, mais pourquoi? Tout c'est l'expédier de l'affaire courante. Tout simplement parce qu'il n'y a pas que la motion. Il y a aussi le réquisitoire. Le réquisitoire du PGR, que maintenant l'Assemblée a mis à la disposition de la Cour suprême, le vice-gouverneur, le gouverneur plutôt, Bolamba. Maintenant que c'est pénal, et il doit comparaître, mais il est à l'impossibilité, vraiment à l'impossibilité d'assumer l'intérim. Et ça revient toujours à la maman. Donc ici, dans ces deux cas, que ce soit la motion de censure, que ce soit la motion de défiance, la mère est incontournable, c'est toujours elle qui va assumer l'intérim. Donc là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, et c'est clair comme l'eau de la roche.
Mais voilà. Honorable Badioko, il y a le président de l'Assemblée de votre Assemblée provinciale, Lofanje Isangia, qui a déclaré que normalement ça devrait être tel que vous l'avez dit, mais le problème c'est que madame la vice-gouverneure n'a jamais été notifiée par le ministère des tutelles pour reprendre son poste.
Oui, justement, vous voyez ici, le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, il parle d'une chose et de son contraire à la fois. Et c'est lui qui s'acharnait à ce que la maman ne puisse pas donc assumer cet intérim. Mais parce qu'il n'a pas raison, et que le tour encore pour la deuxième, ça commence à se serrer autour de lui. Maintenant, il revient pour donner raison à la mère. Mais aujourd'hui, moi je vous le dis, quand la mère était déçue par l'Assemblée, je crois que, vous le savez bien, la mère n'est pas partie donc se plaindre auprès du ministère de l'Intérieur. Il est parti où? Il est parti à la Cour constitutionnelle. Et la Cour lui a donné raison. Elle a son arrêt, elle a sa notification, et la notification adressée à la présidence, et la notification adressée à l'intéressé elle-même. Mais aujourd'hui, quand Koulibé dit ça, le français, notre président, mais c'est parce que maintenant il parle d'une chose de son contrat à la fin. Hier, il ne tenait pas un tel langage. Aujourd'hui, quand tu vois que, en tout cas, il ne peut pas aller contre le courant de l'histoire, il revient à la raison pour décider, reconnaître que c'est la mère, la maman vice-gouverneur qui doit assumer l'intérim. C'est ça. Donc je ne suis pas. Il le fait tout ça à contre-cœur. Il le fait à contre-cœur, donc contre sa conscience même.
Alors, l'honorable Henri Thomas Lokondo, en réagissant à cette situation, a dit, je le cite, je savais qu'il, le gouverneur Tony Bolamba, allait partir parce qu'il fallait qu'on ait quelqu'un de plus expérimenté, de plus compétent que lui. Il faut chercher lors de la prochaine élection quelqu'un de compétent, d'expérimenté, qui doit gérer la province comme il le faut. Fin de citation. Visiblement, honorable Badioko, la province de l'Équateur, tant dans son format actuel qu'ancien, demeure une province ingouvernable.
Mais on peut dire ingouvernable. Pourquoi? On peut dire ingouvernable tout simplement parce que le ministère de l'Intérieur a ouvert la brèche pour les aventuriers. Ça ne veut pas être ingouvernable. Puisque aujourd'hui, vous allez comprendre, vous parlez directement au Congo, et vous savez à travers le pays, c'est quelqu'un qui a toujours défendu la légalité. Et il le dit. Et aujourd'hui, c'est le gouverneur qui était là. Donc, lui ne savait absolument rien. Il ne connaissait même pas. Je crois qu'avant de devenir gouverneur, il n'a jamais touché les paperasses de l'administration congolaise.
Merci.
Jamais du tout.
Malheureusement, il n'est
pas. Lui, il n'a pas pris, donc il n'a pas si.
Malheureusement, honorable Badioko, le gouverneur Bolamba n'est pas ici dans ce débat pour se défendre. Nous n'allons pas parler des personnes absentes, mais nous allons plutôt rester sur les faits. Monsieur le conseiller Lulama, il y a pour vous cette réaction qui nous vient d'où? D'Arou en Ituri.
C'est Patrick Mbouli qui a commencé.
Voilà, plutôt de Lubumbashi.
Mbouli Katama depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Cette situation honteuse n'est autre que la politique des hautes toits que je m'y mets. C'est la conséquence d'un découpage précipité et non préparé devant une famille politique qui veut avoir une mainmise partout et à tous les niveaux. Cette confusion ne se justifie pas, d'autant plus que la Constitution prévoit un mécanisme au cas où un gouverneur est déchu par l'Assemblée provinciale. Je crois qu'il y a du boulot à faire au sein de la classe politique congolaise, où certaines personnalités et hauts fonctionnaires de l'État doivent travailler pour l'intérêt de la nation et non pour l'intérêt de leur parti politique.
Voilà, Benoît Youlama, j'ajoute cette réaction de Will, cet internaute qui dit « Voici l'une des conséquences d'aller plus vite en besogne sans préparation. Cette histoire de créer les nouvelles provinces causera toujours des difficultés en mettant en place les nouvelles provinces. Il me semble que les gens voulaient se partager le gâteau. Malheureusement, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à gérer les différends. »
Bon, et je remercie d'abord les deux auditeurs qui ont donné leur réaction par rapport au thème du jour. Mais je crois que il y a probablement une suffisante connaissance de la loi fondamentale. Et il était prévu à l'article 10 de la Constitution que la décentralisation allait se mettre pratiquement 3 ans après l'élection du président de la République ou les élections générales du pays. Et au contraire, c'est vrai, peut-être la préparation n'a pas été très éloquente, mais se conforme à la loi, on a fait qu'appliquer la loi. Et donc il n'y a pas eu précipitation, mais au moins, j'estime, et je continue à le dire, que le gros de problème aujourd'hui, c'est la décentralisation des autochtones. C'est cela qui crée beaucoup de problèmes au pays. S'il y avait une décentralisation basée essentiellement sur les non-autochtones, on peut avoir quelqu'un du Sud Kivu qui dirige le Kasaï, quelqu'un du Kasaï dans l'ex-Katanga, quelqu'un du Katanga.
Comme un peu l'expérience de la Deuxième République.
Certainement, ça allait créer moins de problèmes. Parce que avec le député provincial, il y a un problème au niveau sociologique. Lorsque quelqu'un voit quelqu'un de notre camp politique qui se présente, mais d'une autre famille et biologique qui se présente, et la première conséquence, c'est de dire que nous ne sommes pas représentés, il n'y a que d'autres provinces ou d'autres groupes ethniques qui sont représentés. Mais si on avait des gens qui ne sont pas sur le plan purement local identifiés comme appartenant à tel ou tel groupe et sociologique, il y aurait moins de tensions par rapport à ce qui se passe. Parce que l'exemple que vous veniez de donner est très éloquent. L'ex-province de l'Équateur dans sa globalité, c'est la province qui a beaucoup plus de problèmes. Et ce sont des problèmes qui trouvent des racines au niveau de la tribu, au niveau de la géopolitique. Et les jeunes ne s'entendent pas. Et généralement, c'est un peu des accusations telles que vous avez entendues contre le gouverneur qui ne fait même pas partie du débat de ce soir. C'est autour de tout cela qu'il y a beaucoup de problèmes à l'Équateur, toujours des détournements, des accusations parfois gratuites. Et le vrai problème, c'est le partage des ressources. Les députés provinciaux ont toujours souhaité partager l'argent avec le gouverneur, et lorsque celui-là ne donne pas, la conséquence, c'est qu'ils vont préparer des documents contre vous. Mais dire qu'on a triché, on a volé, on a détourné, c'est très simple de le dire verbalement. Finalement, ce qui est important, c'est la preuve. Et s'il n'y a pas de preuve, certainement, ça pourrait aussi créer un précédent sur le plan de droit.
Finalement, pourrait-on arriver à avoir l'homme providentiel pour cette province de l'Équateur?
Bon, je crois que là, c'est me retourner encore dans le fond de la question qui a été posée par notre ami de Lubumbashi, mais aussi l'intervention du député qui estime que c'est le ministère de l'Intérieur qui impose, alors que le vote est libre, ce sont les députés provinciaux qui donnent leur voix à un gouverneur.
Théoriquement, donc, mais dans la pratique, Benoît Oulama, tout le monde sait comment ça se passe.
Non, mais on peut faire campagne, on ne peut pas interdire à un candidat de faire la campagne, mais c'est un corps. C'est un petit nombre qu'on ne peut pas aller boutiquer. Je crois que ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est aux députés de faire un bon choix, mais un choix qui n'est pas tribal, mais un choix qui doit être un choix qui reflète l'image et des soucis de la population au niveau de la base.
Merci. Maître Soudi, a pour vous maintenant cette réaction qui nous vient d'Arou en Ituri.
Monsieur Poncha Telamanou, je vous appelle à partir de Arou, dans la province de l'Ituri. La décentralisation comme mode de gestion des provinces n'est pas encore intériorisée chez ceux qui devraient le faire. Faudra-t-il rentrer à l'état unitaire fortement centralisé? Pourquoi la gestion des nouvelles provinces pose problème? Les dirigeants et les citoyens étaient-ils bien préparés pour cette nouvelle donne politique? Bref, il est temps de faire le bilan de cette immigration sociopolitique et proposer des solutions idoines.
Maître Soudi, dans le même sens, j'ajoute cette réaction de Nashinimba Muliri Kimpavita de Goma en Nord Kivu qui dit « Il faut qu'on rentre au système de gestion par centralisation et nous éviter cette cacophonie de régionalisme qui est devenue en RDC une antivaleur. »
Merci beaucoup pour ces questions-là. Je comprends l'inquiétude de nos compatriotes lorsque un processus aussi noble que celui de la décentralisation n'est pas encore maîtrisé par plus de 80% des acteurs. Je parle bien de plus de 80% des acteurs au niveau central, au niveau provincial et au niveau local. Les gens n'ont pas encore intériorisé, il a raison. Pourquoi on en est là aujourd'hui? La décentralisation, c'est un mode de gestion qui assure la promotion du développement local. D'abord, il ne faut pas la confondre avec le découpage. On a toujours dit, et je le répète, le découpage, c'est une technique parmi tant d'autres pour assurer la mise en œuvre de la décentralisation. On peut décentraliser, on pouvait décentraliser aussi notre pays sans le découper. Tout comme en le découpant, on rapproche davantage les gouverneurs et les gouvernants. L'exemple des provinces comme le Bazouélé, le Haut-Ouélé, le Haut-Lomami, etc., c'était des entités qui étaient jadis des districts, mais avant qu'elles ne soient provinces, il fallait voir ce qu'il y avait comme infrastructure là-bas. Donc depuis que le colonisateur a quitté notre pays, donc c'était difficile d'avoir même quelques kilomètres asphaltés dans ces entités. Mais aujourd'hui, avec la décentralisation, le rapprochement des gouvernants auprès des gouvernés, il y a possibilité que l'on puisse mettre en application le principe de libre administration. Et là, je voudrais donner l'une des raisons qui nous amène dans tout ce que nous sommes en train de subir. Il n'y a pas assez de libre administration au niveau de gouvernement ou des institutions provinciales. Nous sommes dans un contexte de pauvreté où tout le monde croit qu'en devenant député provincial ou ministre provincial, il va tout de suite améliorer sa vie et celle de sa famille. C'est comme ça qu'à un moment donné, nous avions même proposé qu'au niveau des assemblées provinciales, qu'on puisse instaurer seulement les systèmes des jetons de présence, comme ça se passe dans certains pays d'Afrique francophone qui ont expérimenté la décentralisation avant nous, de manière à ce que l'on ne crée pas une seconde carrière d'un député provincial ou d'un ministre provincial au niveau de province. Et ça donnera la possibilité à ce que les institutions provinciales puissent gérer ces entités d'une manière beaucoup plus apaisée. Je reviens à notre sujet. Ici, il faudra noter que avec la motion de censure, c'est la responsabilité de l'ensemble du gouvernement provincial qui a été engagé. Il n'est pas question ici de dire c'est le gouverneur qui est mauvais et le vice-gouverneur qui n'est pas mauvais. Non. Comme c'est une motion de censure, c'est l'ensemble du gouvernement qui porte la responsabilité. Si dans le cas de l'Équateur, il est établi que le gouverneur de province est soit accusé ainsi de suite et que, comme je l'ai dit, l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative compétente a décidé que lui ne peut pas expédier ses affaires courantes parce que c'est lui qui doit les faire dans les cas d'espèce, en ce moment-là, son vice-gouverneur peut les faire. Je reviens encore sur j'ai entendu quelqu'un parler de la décision de la Cour suprême de justice. Cette décision, la décision de la Cour constitutionnelle, excusez-moi, cette décision, si elle est antérieure à la motion de censure, elle tombe avec la motion de censure. Ça veut dire que c'est une vice-gouverneure qui a été réhabilitée, mais qui se retrouve dans le même gouvernement qui a fait l'objet de la motion de censure. Donc elle Merci. Aussi, elle est dans les mêmes conditions que son gouverneur.
Merci.
Et donc, quitte à savoir s'il y a un empêchement judiciaire ou administratif qui empêche le gouverneur d'expédier ses affaires courantes, à ce moment-là, la vice-gouverneure est en droit d'expédier ses affaires courantes.
Merci, Maître Soudi. Je reviens à vous pour la conclusion. Honorable Léopold Badioko, finalement, comment vous entrevoyez la suite de la gestion, voire du développement de la province de l'Équateur?
Bon, c'est simple. C'est simple parce que tout dépend de nous les députés. Tout dépend de nous les députés, lors du vote, quand le scrutin est là, et s'il faut vraiment jeter notre dévolu sur un candidat compétent, un candidat qui a déjà l'expérience, un candidat qui est rassembleur, et qui a un esprit d'abnégation, je crois qu'avec ça, on peut penser au développement de notre province. Mais s'il faut donc revenir à la situation que nous avons connue, et surtout ici, je dois être franc. Ici, c'est le bureau avec les députés, soi-disant majorité, qui ont pris le gouverneur en otage. Mais il aurait pu bien faire son travail. Mais ici, les députés ont pris le gouverneur en otage, ils ne pouvaient pas travailler, sous la peur d'être dessus. À tout moment, on le menaçait.
Honorable Badioko,
il pouvait bien travailler.
Honorable Badioko,
nous savons avec espoir, parce que nous sommes les vivants, et parce que nous sommes les vivants, nous pouvons perdre l'espoir. Nous allons trouver quelqu'un. Nous trouverons quelqu'un, et quand nous prions, Dieu nous écoute, il va nous donner quelqu'un de compétences et de capacités qui aura donc un esprit de créativité
Merci.
Et d'initiative pour que nous puissions développer ensemble
Merci.
Notre province de l'Équateur.
Merci, honorable Léopold Badioko. Je considère cela comme votre conclusion. Benoît Youlama, le député Badioko dit qu'il garde l'espoir, que finalement cet homme providentiel, ils le trouveront un jour. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la province de l'Équateur puisse être mieux gérée? En guise de conclusion.
Oui, je crois que contrairement à ce que l'honorable Léopold Badioko est en train de dire, le problème de l'Équateur, c'est il faut juste savoir gérer les émotions et les sentiments que les uns ne partagez pas avec les autres, et surtout au niveau des députés. Et vous avez entendu, Maître Soudaire, l'événement important. C'est que les députés pensent que quand ils sont là, ils doivent mieux vivre par rapport à un gouverneur. Et s'il n'y a pas un désintéressement de la part des députés provinciaux, j'en vois pas, même si on a mené un papier à l'Équateur, la situation sera presque la même et toutes
Merci.
Les années, on entendra toujours des motions.
Maître Soudi, votre conclusion en un mot?
En un mot, je voulais dire qu'on ne peut pas avoir peur des procédures, parce que la loi les a prévues, des contestations, ainsi de suite. Mais la solution efficace ici, ce sont les élections provinciales, parce qu'ici, nous sommes en face des députés provinciaux qui sont fin mandat, qui sont dans l'incertitude, et les différents candidats gouverneurs qui pourront venir, ils seront toujours dans cette même incertitude, et
Merci.
Qui ne rassure pas une longévité de gestion.
Merci.
Tout le monde est dans la recherche
du bien-être. Merci, Maître Soudi. Fin de cette émission. Réalisation Guy Maté, assisté de Kéline Kouté. Mise en onde, Sylvain Matundu. Supervision Pélékipé Lamondo. Présentation et coordination, Alain Rung Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.